Bonjour, Cham Charan. Vous écrivez que l'Inde et la Chine sont devenues voisines seulement au XXe siècle, après la conquête du Tibet par les Chinois. Mais ces deux pays se connaissent depuis plus de 2000 ans. Quel rôle le bouddhisme a-t-il joué dans le rapprochement?
Le bouddhisme est arrivé en Chine, empruntant les routes caravanières de l'Asie centrale et les routes maritimes qui reliaient les côtes de Coromandel et les ports chinois. La pensée bouddhiste jouissait d'un large prestige, comme en témoigne la présence de pèlerins chinois en Inde tout au long du premier millénaire de notre ère. Parallèlement, on assistait à une véritable circulation de savoir, avec la traduction chinoise de livres philosophiques, mais aussi des traités de médecine indienne. Dans les chroniques chinoises anciennes, le terme qui désignait l'Inde était Sitien, signifiant paradis occidental.
Malheureusement, cette vision positive va devenir plus problématique au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'ère moderne.
En effet, après le déclin du bouddhisme en Asie du Sud, l'Inde disparaît des radars des Chinois pendant plusieurs siècles. Il faudra ensuite attendre le 19e siècle pour que ces deux pays civilisations reprennent langue de nouveau, alors que l'Inde faisait déjà partie de l'empire colonial britannique. Pour les Chinois, le pays du Bouddha était devenu une nation esclave, qui plus est lors des déprédations perpétrées pendant les fameuses guerres de l'opium. Le rôle néfaste joué par les marchands et les soldats indiens a eu un impact négatif sur l'image de l'Inde en Chine. Pour constater l'ampleur du dégât, il suffit de feuilleter les écrits des réformateurs chinois de la fin du 19e et du 20e siècle, qui ne voulaient surtout pas que leur pays connaisse le sort réservé à l'Inde.
La fin de la domination coloniale ne rapprocha pas les deux pays, comme le montre la guerre qu'ils se livrent en 1962. Quels en étaient les enjeux?
Cette guerre était le résultat d'incompréhensions mutuelles profondes. Pour les Chinois, en offrant l'asile politique au Dalai Lama, l'objectif de Nehru ne pouvait qu'être de subvertir la mainmise chinoise sur le Tibet. Difficile pour un État à parti unique de saisir toutes les subtilités du fonctionnement d'une démocratie parlementaire. En réalité, quelle que soit la couleur du gouvernement en place à New Delhi, il pouvait difficilement refuser d'accueillir le Dalai Lama sans se faire rappeler à l'ordre par le peuple qu'il avait élu. Dans ce contexte d'incompréhension, les moindres escarmouches étaient interprétées par Pékin comme autant de tentatives de contestation de l'occupation chinoise du Tibet. Quant aux mandarins de New Delhi, ils ne comprenaient pas pour leur part ce que pouvaient bien cacher les susceptibilités d'un pouvoir marxiste et autoritaire.
Vous écrivez qu'aujourd'hui, dans le rétroviseur de la Chine, l'image de l'Inde ne cesse de se rétrécir. L'Inde a-t-elle définitivement perdu le match?
Il me semble que les relations difficiles qu'entretiennent les deux pays découlent pour l'essentiel de leur puissance asymétrique. Ce n'est qu'en renforçant ses capacités dans tous les domaines que l'Inde pourra relever le défi chinois. Elle en est tout à fait capable, d'autant que ses actions se mesurent à l'échelle d'un sous-continent. Qui plus est, l'Inde peut se targuer d'être soutenue par les grandes démocraties telles que les États-Unis, le Japon ou les pays de l'Union européenne, qui sont aussi les principales détentrices de technologies de pointe dans le monde et des sources incontournables de capitaux. Ces démocraties avancées se sentent menacées par la puissance montante chinoise. La menace s'est amplifiée depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, qui a vu Moscou et Pékin renforcer leurs liens. Confronté à cette alliance des États totalitaires, l'Occident s'est tourné vers l'Inde, avec qui il partage une tradition démocratique et qui peut faire contrepoids à la Chine. C'est un créneau géopolitique propice pour New Delhi. Toute la question maintenant est de savoir si ce dernier saura saisir l'opportunité et mettre en place un plan de bataille adapté qui lui permettra d'accroître ses niveaux de capacité tant militaire qu'économique. Il faut à l'Inde un volontarisme politique pour rattraper à terme son retard avec la Chine. Telle est la thèse que je défends dans mon livre.
Votre thèse consiste aussi à rappeler aux hindouistes au pouvoir à New Delhi que c'est en demeurant fidèle aux valeurs inscrite dans sa constitution que l'Inde pourra relever le défi chinois. Quelles sont ses valeurs?
J'ai soutenu que les principales forces de l'Inde sont sa pluralité civilisationnelle et le cosmopolitisme né de son ouverture millénaire aux influences étrangères. Il me semble que le régime le mieux adapté pour gérer la pluralité propre au monde de plus en plus globalisé de demain, c'est bien le régime démocratique indien et pas le modèle autocratique.
And not see China as the model to be followed.